Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Squad, un jeu développé par des modeurs de Battlefield. Nous enchaînerons ensuite sur The Witcher 3. Nous évoquerons également le nouveau Deus Ex nommé Mankind Divided. Nous parlerons également du nouveau Monster Hunter Stories annoncé sur 3DS. Du côté de Nintendo, nous nous pencherons sur le cas de Splatoon qui ne sera pas doté de chat vocal et nous vous dirons pourquoi. Un jeu qui revient du monde des morts, c'est Edge of Empire 2 HD qui va recevoir une extension. Nous évoquerons également Lego Dimension, n'est-ce pas mon très cher Mordren? Et on va parler de quoi exactement?
Bah simplement que ça a été annoncé et que en gros c'est une nouvelle bataille entre Disney Infinity, Skylanders et Lego. Duel au sommet.
Voilà. Et enfin, pour terminer l'actualité cette semaine, nous verrons pourquoi les éditeurs s'opposent à un mouvement lancé aux États-Unis par l'Electronic Frontier Foundation qui milite pour faire en sorte que les jeux en ligne puissent être modifiés après que les éditeurs aient abandonné les jeux en question, hein, pour pouvoir y jouer, hein, ça pourrait être utile. Mon cher ATH, nous allons parler maintenant d'un mode que tu nous as présenté cette semaine, et ce mode, ça s'appelle Squad.
C'est un mode qui est créé donc par des gens qui ont officié en fait auparavant sur Battlefield 2, qui avait créé un mode qui s'appelait Project Reality. Et en fait, ce mode-là, il permettait d'insuffler un peu plus de réalisme à Battlefield 2. Et bah, il faut savoir que maintenant, une partie de l'équipe qui avait fait ce mode-là travaille sous l'Unreal Engine 4. L'équipe se fait désormais appeler Offworld Industries. Et ils ont donc décidé de créer un FPS exigeant. Actuellement, il est sous Steam Greenlight. Donc, vous pouvez voter si le cœur vous en dit. Ils ont vraiment insisté sur le fait que tu pourras pas jouer vraiment solo. Il faudra vraiment avoir l'esprit d'équipe et coopérer, parce que sinon tu risques pas de faire long feu. C'est vraiment l'aspect coopération qui est mis en avant par l'équipe de développement. Et ils insistent vraiment sur ce fait-là.
Il y a des features qui vont dans ce sens, notamment par exemple le fait que par rapport à la voix, plus tu t'éloignes de quelqu'un, plus ta voix sera diffuse en fait. Et au bout d'un moment, tu l'entendras plus. Ce qui est intéressant justement pour pousser les gens à rester en groupe, par exemple, ce genre de choses, quoi. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs à Arma.
C'est ça, Arma ou Insurgency, c'est vraiment des inspirations qu'ils ont eues pour créer ce jeu-là. Il y a aussi autre chose qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est par exemple deux équipes qui s'opposent, donc ils vont se battre sur des maps qui sont inspirées de lieux réels. Ça va pas être uniquement du deathmatch, parce qu'il faudra par exemple aussi construire une base. Les équipes doivent vraiment travailler ensemble pour vraiment construire quelque chose et bien défendre. C'est sur cet aspect-là vraiment qu'ils bossent. Et il faut savoir aussi également que bah vous avez un trailer sur YouTube et vous pouvez donc voir ce qu'ils proposent. Et effectivement, c'est pas encore une version définitive et on voit surtout en fait des animations qui sont un peu datées. Donc on espère que ça sera corrigé d'ici là s'ils peuvent.
Oh, tu sais, les joueurs d'Arma 2 ou Arma 3, enfin. Les animations datées
Ouais, mais moi ça m'a fait j'avoue quand j'ai vu la vidéo, c'était la seule chose qui me faisait un petit peu tiquer, parce que le jeu il est quand même assez beau pour une équipe comme ça, mais voilà, les animations, s'ils pouvaient travailler un petit peu plus, ça serait pas mal.
Donc messieurs dames, si vous êtes attirés par les FPS un peu exigeants, nous vous invitons à vous intéresser au projet. Je sais notamment, je crois, Thanos, c'est ça, oui, Thanos, je crois que sur sa chaîne YouTube, il jouait pas mal à Arma 3, il me semble. Oui, oui, parce que j'espionne en plus nos auditeurs. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Bon, nous allons maintenant évoquer The Witcher 3. The Witcher 3 qui... putain, qu'est-ce que je sors comme connerie, moi? The Witcher 3
The Witcher 3
c'est totalement ridicule en fait. The Witcher 3, donc, qui va avoir des DLC parce que c'est bien gentil, messieurs de CD Projekt, les coups marketing, genre ouais non mais en fait c'est pas un season pass, enfin d'ailleurs ils ont appelé ça comment leur season pass là, expansion pass, c'est ça?
Ouais, une connerie du genre, ouais, c'est ça, un truc bien marketing.
Non mais en plus je veux dire, il y a pas de honte à faire des DLC, c'est juste qu'il faut qu'ils soient à la hauteur, c'est tout. Alors je sais bien que c'est un mot DLC qui est assez mal connoté, mais bon, le fait est que ce sont des DLC, messieurs, même si le contenu est conséquent. Nous avons donc deux DLC qui ont été annoncés. Un qui est prévu pour la fin de l'année, je crois.
Octobre 2015.
Voilà, octobre 2015. Et un qui est prévu pour le premier trimestre de 2016. Le premier sera de 10h et le second sera de 20h. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Alors après, est-ce que ce sera 10 heures en faisant tout ou est-ce que ce sera 10 heures en ligne droite? C'est pas tout à fait la même chose.
Non, en faisant tout, bien sûr.
Ah, on ne sait jamais. Tu sais, avec CD Projekt, on peut avoir des bonnes surprises. J'espère que ce sera en faisant tout en ligne droite parce que 10 heures en faisant tout, je suis pas... Enfin...
Bah, le prix du Season Pass pour les deux, donc c'est 25 euros. Et ça s'appelle...
25 euros. Ah oui, pour 30 heures de jeu, 25 euros.
Voilà, c'est honnête. Et ça s'appelle bien le Pass Extension. Et bon, quand tu sais qu'il y a certains jeux qui se finissent en 5 heures, et c'est le jeu complet qui coûte 70 euros, là c'est 25 euros, c'est deux extensions. Donc tu vois, il y a quand même un peu plus de durée de vie que certains jeux, on va dire.
Ouais, donc pour le moment, bon, mis à part le coût marketing qui est un peu douteux, je vous sens convaincu, messieurs.
Bah en fait, moi, ce que j'aimerais bien, ça soit que... On est plus le vraiment une extension.
Ouais, genre on n'a pas retiré 10 heures du jeu, tu vois.
C'est ça, exactement. Et que au final, quand tu joues au jeu, bah ça manque et que t'es obligé d'attendre le mois d'octobre en plus de ça pour voir la fin.
Ça m'étonnerait fort, hein, vu le temps qu'il y a entre la sortie du jeu de base et celle de l'extension.
Ah oui, mais bon, tu sais bien que hein, bon, on se rappelle
ces dernières années, on va dire que on se méfie de tout maintenant.
N'est-ce pas Assassin's Creed comme Prince of Persia qui proposait l'épilogue en DLC pour avoir la vraie fin du jeu, quoi.
Bon, après, je veux dire, c'est des projets, ils ont mis tellement de temps à s'établir une certaine réputation, ils font tellement d'efforts sur le plan marketing pour faire en sorte que, non, mais c'est pas un DLC, s'il vous plaît, quoi. Donc, j'imagine qu'ils seront pas suffisamment cons pour faire ce genre d'erreur, quoi.
Ouais, surtout qu'on sait que, bah, le premier DLC, il s'appelle donc Heart of Stone, et Geralt devra explorer les Terres Désolées, et ainsi que la ville d'Oxenfurt. Ça, c'est pour le premier DLC qui viendra donc au mois d'octobre. Et le second est intitulé Blood and Wine. Et celui-là, il est prévu donc pour 2016, comme on a dit. Et il sera donc plus conséquent, parce qu'il rajoute quasiment le double de durée de vie du premier DLC. Là, on va visiter la région de Toussaint. Et ils disent vraiment dans leur plan marketing que ça va revenir sur un standalone à l'ancienne.
Morwan?
Ouais, c'est aussi pour ça qu'ils jouent sur les mots. Faut savoir que CD Projekt, ils ont régulièrement répété qu'ils aimaient pas les DLC payants. Donc c'est aussi pour ça qu'ils appellent ça une extension. Parce que forcément, dire qu'on n'aime pas les DLC et ensuite faire du DLC, voilà. Donc c'est pour ça, c'est du discours marketing, le côté « oui, non, c'est pas un DLC, c'est une extension ». Mais après, ben, je pense qu'il faut aussi leur faire confiance pour qu'ils se tiennent au mot, quoi, tout simplement. Et donc on verra ce que ça donne en octobre. Moi déjà je suis surtout intéressé par le jeu de base qui sort dans pas si longtemps que ça, et ensuite on verra s'il y a véritablement besoin d'une extension.
Ouais, on verra déjà si le jeu de base il est bon, et que parce que si c'est un jeu de merde, bah on va pas acheter des DLC. Mais bon, je pense pas que les connaissant un petit peu les gars de CD Projekt, je pense pas qu'ils vont nous faire une bouse, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien, comme on dit.
Le seul truc qui me gêne vraiment, pour le coup, c'est même le concept, tu vois, d'acheter à l'avance un truc, moi je suis pas forcément fan. Après, on pourra me dire que c'est paradoxal pour quelqu'un qui finance des projets sur Kickstarter, tu me diras. Mais d'une manière générale, je déconseille aux gens d'acheter des season pass ou des trucs comme ça. On n'a aucune idée de ce que ça va donner au final, même si on peut se dire qu'on peut faire confiance à CD Projekt et tout. Le concept d'acheter du contenu à l'avance, bof, pas forcément.
Ouais, je suis pas d'accord non plus, t'as raison.
Voilà, bon. Allez, nous allons enchaîner ensuite sur le nouveau Deus Ex. ATH, ils ont annoncé quelque chose de particulier pour ce nouveau Deus Ex, ou pour le moment c'est juste un trailer en mode voilà la suite de Deus Ex, salut.
Bah en fait, il faut savoir tout d'abord que c'est un leak qui a fuité sur internet, parce que le magazine Game Informer devait révéler l'annonce du jeu au mois de mai. Après, maintenant, on connaît un petit peu ceux qui fouillent sur Internet, ça, et ben, ils ont révélé l'actu bien avant. Donc,
c'était sur NeoGAF, j'imagine.
Oui, sûrement. Ouais. Et donc, Square Enix s'est empêché de balancer un trailer. Donc, il s'appellera Deus Ex Mankind Divided. On sait dorénavant qu'on va incarner encore une fois Adam Jensen.
Ça se déroule 2 ans après le premier épisode.
Voilà, ça se passera donc en 2029, 2 ans exactement après le premier épisode. Adam Jensen va faire partie d'Interpol et devra neutraliser des terroristes qui foutent un peu le bordel dans la ville. Aussi, une promesse des développeurs, c'est que le jeu aura une architecture plus ouverte pour laisser plus de liberté aux joueurs, en fait, dans la manière d'aborder chaque situation. J'espère que ça sera un monde ouvert, parce que dans le premier, dans Human Revolution, c'était des missions qui étaient coupées et on pouvait pas se balader où on voulait. On était vraiment téléporté en hélicoptère d'une ville à une autre. Et on revenait à chaque fois au QG, mais ça avançait dans le scénario et il n'y avait pas vraiment l'aspect d'évoluer comme on veut. Là, j'espère que ça va aller plus dans cette direction-là.
Alors, monde ouvert, pourquoi pas, pour pas qu'il y ait de transition, si vous voulez. Mais moi, il me faut un truc où, voilà, tu arrives, chaque zone de jeu a été étudiée sur le plan du game design pour t'offrir plusieurs approches, ce genre de choses.
Ouais, parce que le premier, le Human Revolution, c'était vraiment... un peu le reproche qu'on pourrait faire aussi à Batman, tu rentrais par des bouches d'aération si tu voulais vraiment jouer à infiltration et il y avait vraiment beaucoup de bouches d'aération et ça fait
il y en avait tellement que tu disais mon vieux la sécurité dans le futur la vache quoi.
Voilà, c'était un des reproches qu'on pouvait faire au jeu. Il y avait aussi ces combats de boss.
Ah oui,
totalement raté.
Ça c'est le défaut du jeu que j'espère qu'ils vont corriger, hein. Parce que moi, si je me retrouve encore une fois bloqué contre un boss alors que je joue un personnage infiltration et que le boss il a été conçu pour être buté, de manière normale quoi, ça va pas être possible. Hein. Si c'est pour faire une suite, autant qu'ils apportent des améliorations quoi.
Et je rappelle quand même que ces combats de boss dans le premier Human Revolution c'était sous-traité par une autre boîte. Là, j'espère vraiment qu'ils feront plus cette erreur là. Et aussi l'autre poche que je pouvais faire à l'ancien, c'était sa fin. Qui est totalement pourri.
Bah c'était en mode Mass Effect. Hein.
Voilà, on arrive, on clique sur 4 interrupteurs, enfin 3, et si tu fais en gros une mission, si tu joues infiltration vraiment du bout en bout, t'as un quatrième choix, mais c'est pas vraiment cohérent. J'aurais préféré vraiment que la fin soit là par soit tes choix de dialogue ou bien ton implication si tu jouais vraiment furtif, etc.
Ouais, comme dans le tout premier Deus Ex où tu choisissais ton camp à la fin, quoi.
Là, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, donc on se demande vraiment comment ils vont faire ça. Et surtout, vu qu'il y avait plusieurs fins, là, ils vont t'en imposer une forcément parce qu'ils vont pas te proposer 4 fins différentes, enfin 4 débuts de scénario différents.
Oui, je pense pas.
Moi non plus, malheureusement.
Ou alors ils vont trouver un twist qui fait que toutes les fins précédemment évoquées sont annulées en fait.
Il y a aussi le fait que au début Adam Jensen dans Human Revolution acquiert ses capacités d'homme-machine suite à un accident. Là, est-ce que il va recommencer depuis le début? Parce que franchement, si tu arrives et que tu dois débloquer toutes tes capacités depuis le début, alors que c'est censé être un super-homme, scénaristiquement, ça tient pas trop, quoi.
Je vois bien le coup venir en mode « Ouais, non, mais en fait, tout ton matos, il a été cassé, donc tu recommences à zéro. » Je vois bien venir grand comme une baraque, ça, tu vois.
Et sinon, il y avait aussi une dernière chose à ajouter. Pour ma part, c'était que les développeurs avaient dit que les joueurs qui avaient joué Infiltration dans le premier Deus Ex, dans celui qu'ils ont fait, parce que à chaque fois je confonds avec le premier Deus Ex et
le premier Human Revolution, on va dire, voilà. Ça sera plus simple.
dans celui-là, les joueurs qui avaient joué vraiment Infiltration étaient plus satisfaits du jeu au final que ceux qui avaient joué Bourrin. Et donc ils vont miser vraiment sur cet aspect-là du gameplay et on attend vraiment de voir ce que ça va donner parce que c'est bien beau les promesses marketing, mais si au final comme on a dit, les combats de boss sont imposés et on doit jouer bourrin et tout ça, le pari pour moi ne sera pas tenu.
Alors après, je tiens à insister sur une chose, ce qui fait le sel d'un Deus Ex, c'est que tu as plusieurs gameplays quand même. Alors certes, c'est vrai qu'aujourd'hui on en manque de jeux d'infiltration et que ce sera appréciable d'avoir un vrai jeu d'infiltration intéressant. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut totalement délaisser l'aspect bourrin du jeu, parce que ça fait partie de ce qui fait Deus Ex. Dans Deus Ex, tu peux choisir d'être bourrin, t'as le choix en fait.
Oui.
Et il faut pas non plus imposer un gameplay, même si moi, Moi, je jouerai à Infiltration, c'est sûr. Mais il faut pas non plus l'imposer aux gens qui veulent jouer bourrin aussi, quoi.
Ah, moi, j'avais trouvé jouer l'aspect infiltration et aussi avec les phases de dialogue où quand t'as une capacité, une certaine capacité en éloquence augmentée, tu peux persuader ton interlocuteur de faire à peu près ce que tu veux. Des fois, il y en a qui ont des résistances augmentées aussi, donc ça marche pas sur eux. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là du premier Human Revolution que j'avais bien aimé. Si tu veux te la jouer bourrin, bah tu peux, mais sinon tu peux jouer d'une autre manière. Et ça fait vraiment genre deux jeux en un, mais avec le même la même trame scénaristique, etc. Mais il faut vraiment, comme tu l'as dit, qu'il laisse le choix, et surtout que il n'y a pas un gameplay qui prenne le pas sur l'autre, quoi.
Ouais. Moi par exemple, je me rappelle sur le tout premier Deus Ex, le vrai, il y avait une run que j'aimais beaucoup faire, c'est une run avec le sabre en fait. Parce qu'à un moment tu débloques un sabre, je m'éclate à faire ça. Alors pourtant le gameplay au sabre il était ultra basique, hein. Mais j'imagine bien, tu vois, pour les bourrins par exemple, ceux qui veulent jouer au sabre, on te pense un gameplay spécialement pour le sabre, etc. Vraiment pour ajouter du sel au jeu, quoi. Ça serait vraiment intéressant, quoi.
Et quand tu parles du vrai Deus Ex, est-ce que tu parles de Invisible War?
Non, tais-toi, TH, il n'existe pas. Mordren, j'ai cru comprendre que toi tu n'étais pas du tout attiré par le trailer qui a été diffusé. Bon, en même temps, je te comprends parce que c'est du pam pam boum boum. Mais est-ce que un jeu d'infiltration où il y a des possibilités de bourrinage, ça t'attire? Parce que je précise, tu n'as honte sur toi, tu n'as pas joué à Deus Ex.
J'ai pas joué à Human Revolution, effectivement. Mais ouais, bah, faudra que j'attende de jouer au premier, enfin à HR, hein, pour m'intéresser à celui-là. Et de toute façon, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à des jeux, enfin, des trailers en CGI, en fait, en images de synthèse. C'est vrai que c'est joli, ça fait bien à l'E3, mais c'est des promesses creuses pour l'instant.
Et encore, même à l'E3, c'est chiant. Hein,
oui, même à l'E3, c'est chiant, mais dans le sens où ça a plus sa place à l'E3 qu'autre chose, voilà, qu'ailleurs. Et donc, du coup, bon, je suis pas hyper emballé, mais c'est normal parce que j'ai pas encore de gros background avec cette série de reboot. Du coup, je vous laisse un
T'avais
petit peu.
T'avais joué au tout premier?
Ouais, j'avais joué au tout premier.
D'accord. Ah oui, quand même. Tu n'es pas aussi un culte que je le pensais, Morgan, je m'en assure.
Mais pour le trailer en CGI, je me rappelle aussi que pour HR, c'était exactement la même chose. C'était un trailer vraiment pom pom boum boum, vraiment action, ouais, calibré pour le vendre là comme une bande-annonce de cinéma. Alors que le jeu au final, c'était pas du tout ça. Donc j'espère aussi vraiment que ce sera pas ça du tout. Et il y avait aussi un autre défaut que j'avais oublié de citer dans Human Revolution, c'était son filtre jaune pisse. J'espère qu'il ne sera plus dans la partie.
On dirait un peu quand même, hein. Enfin, je sais pas, en regardant le trailer, on a l'impression.
Bah, un peu moins que le vraiment regarde le trailer de Human Revolution, tu vas voir que c'est.
Bah ouais. Après, bon, c'est vrai que toi tu joues sur console, donc forcément t'auras pas le choix, mais sur PC t'as des mods, hein, qui le retirent, le filtre jaune pisse. Si vous en aviez marre du filtre jaune pisse, bah prenez-le sur PC, il y aura sûrement des mods qui répondront à vos attentes.
Version supérieure, comme d'habitude.
Voilà, supérieure version. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. Nous allons maintenant évoquer le prochain Monster Hunter. Mordren, oui. Je me tourne vers toi et je m'étonne que tu aies ajouté cette news cette semaine.
Effectivement.
Toi qui parles d'un Monster Hunter alors que tu n'es pas du tout attiré par la licence, pourquoi donc?
Pourquoi? Parce que pour le coup, c'est la direction artistique de ce nouveau jeu qui m'a attiré. Je me suis levé ce matin et je me suis dit tiens, je vais chercher un petit peu des news pour le podcast et j'ai juste vu le visuel en fait sur un site internet et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Monster Hunter Stories. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un Monster Hunter canonique, c'est un RPG, le premier RPG de la licence Monster Hunter, bien qu'on puisse argumenter que les Monster Hunter ont des éléments d'RPG. Là, pour le coup, c'est un vrai RPG
Mordren
japonais.
Mordren, ne lance pas des débats comme ça, s'il te plaît, ça va mal finir.
Non, mais je connais les commentaires et je me dis que, voilà, j'essaie de blinder un peu mon discours. Voilà. Donc en gros, pour le coup, ça sera un RPG, un JRPG. On n'en sait pas trop d'un point de vue gameplay. Tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est encore une fois un trailer CGI, mais pour le coup, qui donne une vraie idée de la nature, de la direction artistique du jeu. Donc c'est très chatoyant, c'est très cel-shaded.
J'ai envie de dire, c'est
vraiment joli.
C'est comme le trailer de Fire Emblem la semaine dernière. Ouais. C'est le genre de trailer où tu dis putain, ça serait bien que la 3DS s'affiche ça quand même.
Carrément. Et non, mais pour le coup, ça fait vraiment dessin animé et c'est vraiment ça qui m'a parlé pour l'instant. Alors moi je me dis que, enfin, je me suis souvent dit que Monster Hunter c'était une série qui avait du potentiel, mais personnellement j'ai toujours été rebuté par le visuel des jeux. Une direction artistique telle que celle-ci pourrait me donner envie de commencer via Monster Hunter Stories. Alors pour le coup, ça a l'air d'avoir un ton beaucoup plus enfantin que les précédents Monster Hunter.
Oui, non, mais surtout au niveau du gameplay, a priori, ça n'aura pas grand-chose à voir de ce que j'ai compris.
Exactement. Donc alors, ça peut constituer un point d'entrée assez intéressant pour la série. Moi, en tout cas, je suis assez intéressé. Alors, il faut savoir qu'on a encore le temps avant de le voir venir, puisqu'il sortira début 2016 au Japon. Alors, ça, il y a peu de chances que ça passe pas en Occident, mais il va falloir l'attendre, à mon avis.
Je sens que c'est le fan de Pokémon qui parle, là, en fait. Je sais pas.
Exactement.
Pourquoi.
Non, mais carrément.
Il y a des œufs, etc. Je pense que mon nom a tilté tout de suite.
Exactement. Non, mais c'est vraiment ça, en plus. Hein. Donc, je le cache pas du tout. C'est vrai qu'il y a un côté Pokémon qui transparaît dans cette vidéo et ça me, voilà, ça me parle.
Voilà. ATH.
Moi, au début, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait penser à Dragon Quest un petit peu. Après, Monster Hunter, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement, parce que je trouve que surtout les débuts du jeu, ils sont quand même assez redondants et répétitifs.
Je précise que t'as essayé l'épisode sur PSP, que ça t'a refroidi, on va dire.
Oui, j'ai essayé même plusieurs épisodes sur PSP via émulation, tout ça.
Mais ouais, en tout cas, on peut pas dire que t'as pas donné sa chance à la série.
Voilà,
hein.
j'ai essayé. Bon, c'est vrai que je vois qu'il y a un potentiel dans la série, l'aspect chasse et tout. C'est il y a quelque chose vraiment, je pense, pour ceux qui s'investissent dedans, de jouissif. Mais quand j'ai entendu des gens dire qu'il fallait plus de 150 heures de jeu pour vraiment prendre son pied sur Monster Hunter, et je me suis dit, ok, c'est pas un jeu pour moi. le gameplay, enfin, je trouve quand même assez lourd à prendre en main. Et puis, voilà, j'avais pas forcément envie de me taper un cheminement de folie pour arriver à haut niveau. Et puis, il y avait plein de trucs aussi qui étaient pas du tout ergonomiques. L'équipement, tu devais le prendre, en fait, avant chaque mission. Et dans la mission, tu pouvais pas changer d'équipement. C'est-à-dire, soit tu y vas bien préparé, soit tu y vas et que t'as oublié, je sais pas, par exemple, un filet de papillons pour chasser des papillons et tout, et bah si tu l'as pas, bah t'es obligé de quitter la mission, revenir au village et recommencer la mission, et ça prend pas en compte ta sauvegarde. Donc il y avait beaucoup de trucs comme ça que je trouvais qui étaient assez dérangeants. Là, le fait que ça soit un RPG japonais, peut-être que je vais me laisser tenter comme Mordrain, mais après il faut voir, voilà, parce que le scénario et tout ça, ça a jamais été très poussé dans Monster Hunter.
Ouais, non, mais en plus là, franchement, tu vois le trailer, ça a vraiment l'air cucu la praline.
Voilà, non, mais après.
Oui, carrément.
Ça me dérange pas qu'un, si tu veux, qu'un RPG, un scénario vraiment très enfantin, qui vole pas très haut, mais il faut quand même qu'il m'intéresse par, voilà, l'enjeu. Si par exemple s'il faut sauver le monde et tout ça, ça va m'intéresser plus que va chasser tel dinosaure et tu reviens au village. J'aimerais bien en voir plus parce que la bande annonce, elle est très mignonne et tout, ça donne envie. Mais voilà, Monster Hunter, ils ont jamais fait des RPG, et pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, mais ça peut être une bonne surprise, je pense.
Quand j'ai vu le trailer, j'ai pensé à un jeu qui s'appelait Azure Dreams sur PlayStation. Je sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est un jeu, en fait, où t'avais une espèce de tour avec un donjon généré aléatoirement. T'avais un village au pied du donjon, et en fait, tu pouvais investir ton argent pour agrandir le village, etc. Enfin, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré à l'époque. Et en fait, quand j'ai vu les œufs, ça m'a fait direct penser à Azure Dreams, parce que dans les donjons, tu récupérais des œufs de bestioles, que tu pouvais élever ensuite, etc. Bon, en plus, t'avais un côté dating sim à côté, parce que t'avais plein de nanas que tu pouvais draguer et tout. Enfin, c'est vraiment un jeu qui était exceptionnel à l'époque. C'était juste mon commentaire de vieux con, hein, parce que fondamentalement, le jeu, en fait, je l'attends pas plus que ça, vu que je ne sais pas grand chose sur le jeu au final, au vu du trailer. Juste apparemment, les gens qui ne supportent pas le côté gnangnan entre guillemets de certains jeux japonais, moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens, ça les insupporte. Donc, je pense que ça sera pas pour vous pour le coup.
C'est clair.
Bon, nous allons maintenant passer à un jeu qui n'aura pas de chat vocal, n'est-ce pas? Alors ça, pour le coup, c'est un truc qui est très important dans Monster Hunter, n'est-ce pas? La coopération, bah là aussi, ça avait l'air important, mais chez Nintendo, on a dit non, c'est Splatoon. Splatoon qui n'aura donc pas de chat vocal à TH, et pourquoi donc?
Il n'aura pas de chat vocal parce que, tout simplement, Yusuke Amano, le co-réalisateur du jeu, a décidé que non, parce que les gens sur Internet étaient méchants. C'est sa déclaration à lui, hein, je vais la citer.
Il est méchant.
Cela vient de mon expérience personnelle. Quand j'ai joué en ligne, je n'ai pas aimé l'attitude négative à mon égard. Les gens me disaient « Tu ne vaux rien, va-t'en ». Du coup, nous avons décidé de nous focaliser sur l'aspect positif du jeu en ligne. Voilà la déclaration de Yusuke Amano. Je vous laisse débattre. Bon.
Alors, fondamentalement, on est d'accord que c'est... Enfin, c'est bidon, quoi. Enfin, oui, bon, mais... On est d'accord que de toute façon il y a des connards sur Internet, il y a aucun souci. Mais bon, je veux dire, quelqu'un te fait chier, tu le mute et puis c'est tout quoi. Point. Ouais. Moi c'est ce que je fais sur Dota et puis voilà. Mais par contre pour les gens qui veulent jouer en avec leurs potes, tu retires une fonctionnalité qui à mon sens est essentielle pour jouer en équipe. Non, enfin. Après, je sais bien que les interfaces de Nintendo pour jouer en ligne c'est pourri, que du coup, forcément, pour jouer avec ses potes, ça va être compliqué. Mais voilà, enfin, je suis désolé, tu rajoutes une commande mute, problème solved.
Ouais, bah, surtout que dans ton entourage, j'ai pas forcément tout le monde qui a envie de jouer à Splatoon ou bien au même jeu que toi. Donc tu peux faire des rencontres via le jeu en lui-même. Il t'ajoute ton ami, tu l'ajoutes ton ami, et puis après, au fur et à mesure, vous faites une petite équipe comme ça de 3-4 joueurs et vous jouez à Splatoon. Ensemble. Surtout quand tu vois le jeu, tu te dis que la coopération s'y prête forcément parce que c'est un jeu où il faut prendre des zones, c'est un TPS en ligne et tout. Donc moi je trouve
en
ça.
En plus ça a l'air très stratégique. C'est ça le truc, c'est ouais. Il faut se coordonner quoi pour arriver à faire des choses.
Exactement. Et quand tu joues à Mario Kart, ça va encore parce que tu joues, t'es tout seul, t'as pas besoin de la coopération pour jouer à Mario Kart.
Oui, mais du coup un chat, tu vois, ça pourrait être intéressant pour se lancer des.
Voilà,
vannes, etc.
Exactement. Voilà. Exactement. Mais quand tu vois par exemple, sur Mario Kart, t'as l'option de jouer à deux. Deux locales qui jouent en ligne en fait. Donc si t'es avec ton frère, ton ami, vous jouez, vous pouvez régler dans la même pièce, mais c'est pas tout le monde qui va partager ça. Et moi le fait que tu enlèves un aspect quand même important du jeu, parce que la communication c'est moi je trouve que ok d'accord il y a des connards et tout, mais comme tu l'as si bien dit, si tu laisses le choix aux gens de mute ou pas, ou bien d'accepter le chat vocal, ne serait-ce que juste de laisser le choix aux gens, pour moi ça serait vraiment plus judicieux que de couper ça, surtout pour un jeu où on pense que la coopération est importante.
Voilà. Morane, est-ce que tu es d'accord qu'il s'agit un peu d'une solution de facilité ?
Ah oui, carrément. Mais le truc, en fait, c'est que ça a toujours été comme ça chez Nintendo. Ils se disent, oui, mais c'est des gamins qui vont jouer à nos jeux. Du coup, il faut pas que ça soit accessible aux gamins, machin.
Cela dit, les adultes sont pas mieux en général. Je le confirme sur Dota.
Non, mais dans le sens où si c'est des gamins qui vont jouer avec des connards, vraisemblablement des adultes.
Protégeons les oreilles chastes de nos enfants, c'est ça.
Voilà. Et donc du coup, c'est toujours comme ça avec Nintendo. Je pense que ça changera jamais. C'est décevant évidemment pour des joueurs, on va dire consciencieux et qui sont intéressés par le jeu et pas par le trolling.
Bah surtout qu'ils veulent pousser le jeu plus loin, quoi, tout simplement.
Mais c'est surtout que là, pour le coup, ça va manquer dans Splatoon parce que Splatoon, c'est on va dire en version optimale, c'est du 8 contre 8. Et c'est des parties où tu vas jouer stratégiquement pour avoir certains points de la map et où t'as quelqu'un qui peut jouer en tant qu'éclaireur en disant attendez les mecs ils sont en train de prendre le point A, enfin c'est, et du coup ça va manquer je pense, j'en suis sûr, parce que évidemment c'est impossible d'avoir une configuration où t'as 8 personnes dans la même pièce en train de jouer quoi. Ça n'existe que dans les press tours de Nintendo quoi. Et donc du coup c'est, je pense que ça va vraiment manquer et du coup on va perdre en la dimension stratégique et la dimension d'émulation aussi, dans le sens où quand tu fais un triple kill par exemple, t'as envie de dire que t'es content, tu vois, et si t'as personne en face à qui le dire, bah tu vas perdre vraiment en interaction et du coup en fun, parce que vraiment en Splatoon, pour y avoir joué, c'est vraiment un jeu fun quoi. Et
j'avais oublié que tu y avais joué en plus.
et pour le coup, si tu le partages pas avec les gens, bah c'est comme si tu jouais tout seul quoi. Donc c'est vraiment un truc qui me gêne avec le multijoueur vu par Nintendo, et j'ai peur que ça ne change jamais pour le coup.
Bah pour le coup, messieurs dames, prévoyez un Skype, j'ai envie de dire.
Ouais, super.
La seule alternative quoi pour jouer avec vos potes.
T'allumes ton PC, t'allumes ta Wii U, c'est pas très pratique quoi. Enfin voilà, si tu veux mettre Skype.
C'est très respectueux de la nature en plus.
Non mais en plus même voilà, si tu veux mettre Skype tu vas mettre un casque pour entendre tes potes parler, donc tu vas pas entendre le son de la télé, ou bien tu vas laisser le son de la télé avec le Skype. Enfin ça sera un bordel. C'est pas gérable du tout. Pour moi, ils font une grosse erreur là-dessus, et puis voilà, c'est dommage pour ceux qui voulaient jouer en équipe.
Voilà. Bon, 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 mon très cher Mordren.
Oui.
Je crois que nous avons eu un zombie qui s'est réveillé cette semaine.
Ouais.
C'est Age of Empires 2 HD qui va recevoir une extension.
Oui. What the fuck? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils ont une extension sur Age of Empires 2 HD. Donc c'était un remake, enfin un portage HD sur PC qui est sorti il y a 2-3 ans à peu près. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une extension qui s'appelait The Forgotten, qui ajoutait 5 nouvelles races, 7 nouvelles campagnes, etc., etc. Le support, le soutien de Twitch, tu pouvais streamer directement en jeu et le faire diffuser sur Twitch. Enfin bref, peu importe. Et ben, il recommence. Age of Empires 2 HD va avoir une nouvelle extension dont on ne connaît pas encore le nom. Et pour l'instant, c'est assez nébuleux le contenu qu'il y aura, même si on peut s'attendre à ce que de nouvelles civilisations apparaissent et, par la même occasion, que de nouvelles campagnes arrivent en même temps. A priori, on pourrait voir arriver les Égyptiens, même si je vous avoue que j'ai pas vérifié que c'est pas dans le jeu de base. Mais la première image qu'on a, c'est de la cavalerie sur chameau. Donc voilà. J'ai tendance à dire que, à penser que ça pourrait être les Égyptiens. Donc voilà, c'est
j'ai
pour
un
l'instant.
Doute, hein. Là, je t'avoue, sur les Égyptiens, je me demande s'ils n'étaient pas déjà.
Je me rappelle plus. Très honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué.
Grave.
À noter d'ailleurs que, avec cette extension, le support de Windows XP n'existera plus. Donc voilà, si jamais. Vous êtes sur une ancienne machine et que vous jouiez à Age of Empires 2, vous ne pourrez plus sur cette extension.
Non mais de toute façon Windows XP, faut arrêter les gens. Sérieusement. Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais un quatrième épisode, non? Non? Ok.
Bah pourquoi un quatrième épisode et s'ils sortent une extension pour le 2 et pas pour le 3, j'ai envie de dire.
En fait, le truc c'est que à force de voir les ventes d'Age of Empires 2 HD, et je suis sûr que ça se vend. D'Age of Mythology HD, je suis sûr que ça se vend. Est-ce que, au bout d'un moment, ils vont se sortir les doigts et se dire, allez, c'est parti, on y va, quoi. Enfin, je sais pas, une suite ou quelque chose, un nouveau jeu de stratégie Age of Empires, il y a des trucs à faire, quoi. C'est pas normal que ça soit autant la disette, sur les jeux de stratégie, quoi.
Bon, ceci dit, ces derniers temps, il y a de plus en plus de jeux stratégiques qui sortent, je sais pas si t'as remarqué, mais... Oui, c'est pas comme si non plus le marché était saturé, quoi. Donc, il y a une place à prendre.
C'est clair. Mais c'est surtout que, genre, le jour où tu sors une vraie suite à Age of Empires, ça te cartonne, quoi. J'en suis sûr.
En plus, et c'est pas non plus un investissement. Enfin, après, ça dépend ce qu'ils feront avec. Mais, il y a moyen de faire un jeu qui soit pas trop cher non plus, quoi, tu vois.
C'est clair. Bah, tout dépend s'ils reprennent le moteur d'Age of Empires 2 HD, quoi. Enfin, là, pour le coup, ça leur coûterait rien du tout.
Le moteur d'Age of Empires 2 HD. Ils reprennent celui du 3. Alors parce que oui le 3 il y a des choses à dire dessus mais au moins le moteur enfin le jeu était joli quoi on peut pas lui retirer ça.
Enfin bon. Voilà. C'est moi je pense que il faudrait qu'il se penche sur la question et moi j'étais persuadé que justement ces portages HD et c'était un petit peu pour prendre la température du public et ben il faut croire que non parce qu'au bout de 3 ans il y a toujours rien qui sort.
Ouais. Donc l'autre jeu qui a été annoncé, ah tiens, un jeu Lego. Pourquoi je ne suis pas surpris, hein, Monsieur Morvan. Donc c'est quel Lego cette fois, Monsieur Morvan, qui
alors
vous
là,
a fait
l'œil. Pour le coup, il s'agit pas d'un Lego licence. C'est un, ça s'appelle Lego Dimension. C'est un, en gros, c'est l'arrivée de Warner Bros. Sur, enfin Warner Bros. Games, sur le marché du jeu jouet. Donc on connaît évidemment Skylanders, on connaît Disney Infinity. De temps en temps, on se dit peut-être que les Amiibo, ça deviendra ça aussi chez Nintendo sur la Wii U. Et ben là, on voit débarquer Lego Dimension. Lego Dimension, qu'est-ce que c'est ? C'est un pack avec un jeu vidéo développé par Traveller's Tales Game qui s'occupe de tous les Lego machins, Lego Marvel, Lego Seigneur des Anneaux, Lego Batman, bref. Donc un jeu plus une espèce de portail qui ressemble exactement à ce qu'on peut voir chez Skylanders ou Disney Infinity, ce portail que tu crées normalement avec des vrais Lego, plus trois figurines de Lego, dont Batman, Gandalf et Wildstyle, qui est le personnage principal, on va dire, de Lego La Grande Aventure, le film de Warner, sorti il y a 2 ans, je crois. ou peut-être l'année dernière, bref, peu importe, plus un véhicule, la Batmobile en Lego. Bref, tout ça, c'est à créer avec vos petites mimines de Lego fans, plus à jouer sur Wii U avec le portail NFC. Voilà, c'est vraiment l'entrée en lice de Warner Bros. Games sur le jeu jouet. Moi, personnellement, je sens que ça va cartonner, parce que voilà, tu prends le plus gros fabricant de jouets au monde avec des jeux normalement, enfin souvent qui sont très fun à jouer et qui sont souvent des bonnes idées. Je pense que là, ça va faire un mariage apocalyptique, on va dire.
Après, est-ce que tu trouves que le Lego, c'est une licence qui se prête à ce genre de choses?
Ben écoute, je me suis posé la question et je me suis dit, mais carrément en fait. Dans le trailer d'annonce, tu vois à quoi va ressembler le jeu, et tu vois qu'en fait, le jeu va s'amuser à joindre différentes licences, donc tu vois genre une ville qui probablement va être un monde ouvert à la Lego City ou à la Lego Marvel Super Hero, et tu vois popper la tour de Barad-dûr d'un coup du Seigneur des Anneaux et tu fais « Ah, d'accord !» Donc je suis sûr que ça va être un joyeux bordel et que scénaristiquement ça va être n'importe quoi, mais c'est aussi ça l'intérêt de Lego La Grande Aventure, le film, qui a porté plein d'easter eggs de partout sur les différentes licences Lego. Et donc du coup, je suis sûr que ça va être très fun. Et le côté, j'ajoute mon petit Batman, mon petit Gandalf, tout ça, je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Et pour le coup, si c'est bien fait, comme les autres jeux de Traveller's Tales Game de Lego peuvent être faits, parce que souvent ils sont très fun. Moi, j'adore les jeux Lego. C'est vraiment très cool. Si le jeu est nickel. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, quoi.
Mais après, au niveau des objets, en fait.
Ouais.
Parce que le truc, c'est que Skylanders, etc., ça marche aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un attachement à l'objet, si tu veux. Or, les Lego, pour moi, enfin, j'ai pas cet attachement-là. Pour moi, un Lego, c'est un truc où je fais des trucs avec, quoi, si tu veux.
Ouais.
C'est pas une figure que j'ai envie de collectionner, tu vois, que je vais poser sur un truc. C'est pas le même style, quoi, en fait.
Ah, bah, tu sais, avec le développement en ce moment, enfin, ça fait quelques années déjà, mais
moi,
le développement
je suis un vieux con,
des...
Hein, je précise. Hein.
Voilà. Parce que, en fait, le truc, c'est que Lego a lancé il y a quelques années les mini-figures. Mmh. C'est des trucs que tu achètes dans des petits sachets. Tu sais pas ce que t'achètes. Mmh. Tu ouvres le paquet et t'as une mini-figure. Les gens les collectionnent, mais c'est de la folie.
Je vous connaissais pas du tout. Donc.
Donc du coup, je me dis que pour le coup, ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans ce Lego Dimension. Les minifigures, par exemple, t'as des gens qui les collectionnent et qui en font des petits trophées, quoi. Ils les mettent sur leurs étagères, tu vois. Donc c'est vraiment un truc de fou. Certes, il y a un attachement au produit sur Skylanders, par exemple, parce que le produit est relativement joli et plutôt qualitatif, mais faut pas oublier que les Lego, c'est quelque chose que tu crées de tes propres mains. Et c'est pas du tout le cas chez Skylanders ou Disney Infinity. Et le côté « je crée ma petite Batmobile pour la mettre ensuite dans mon jeu et c'est moi qui vais la contrôler et faire ce que je veux », tu retrouves aussi un petit peu l'esprit Lego, même si tu joues pas avec de façon... manuel, on va dire, de façon concrète et matérielle, tu vas y jouer avec sur ton écran d'ordinateur, sur ta Wii U, enfin, il y a un concept, quoi.
Ah, ben, ça pourrait être intéressant, tu vois, je me dis, un jeu où tu crées ton Lego, imaginons, tu vois, et avec des capteurs, il arrive à recréer ton personnage que tu as créé en jeu, pas forcément un truc de licence, tu vois, par exemple, un jeu, imaginons, où tu crées de A à Z ton personnage en vrai.
Ouais, carrément.
Et derrière, tu le téléportes dans le jeu, quoi.
Ouais. Ça me fait penser à... Bah, il y avait eu un concept, je sais plus quand, il y a quelques mois déjà. C'était justement un Lego. T'avais des gens qui avaient créé, genre, je sais pas, une maison en Lego. Je crois que c'était capté par Kinect ou un truc comme ça. Kinect qui regardait ce que c'était et qu'il te recréait ta maison dans le jeu.
Minecraft en réalité augmentée, quoi.
C'est ça.
Là, pour le coup, ça serait vraiment cool. Minecraft hein. Aussi, petit appel du biais, tout ça. Ah, parce que là, pour le coup, en termes de ludisme, c'est top, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Pour le coup, voilà un concept de réalité augmentée qui me parle, tu vois. Tu crées ton truc en vrai, derrière,
c'est clair.
On te le reproduit en jeu, tu le vois prendre forme et tout, c'est cool, quoi.
Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, déjà, faut voir comment se comporte le pack de base, ce qu'ils vont apporter en termes de produits dérivés autour au lancement. Et ensuite, je suis sûr que si ça marche, va y avoir des trucs de ouf, quoi. Et à savoir que, au niveau des licences qu'on pourra retrouver dans le jeu, pour l'instant, on a déjà un certain nombre de trucs qui ont été annoncés, notamment Retour vers le futur, Wonder Woman et Le Magicien d'Oz. C'est pour vous donner une idée de la variété de licences qu'on pourra retrouver à l'intérieur du jeu, en plus du Seigneur des Anneaux et de Batman.
Peut-être pas que voilà. Harry Potter, il va très vite arriver aussi.
Harry Potter est en Warner Bros, voilà, je pense qu'il y a carrément le moyen que ça arrive.
Et en plus, je pense que, enfin, même, tu vois, les figurines comme Batman et tout ça en Lego, il doit y avoir aussi des gens qui les collectionnent, quoi. Même si c'est tout pourri, il y a des gens qui sont attachés à, genre, avoir le Lego Batman, le Lego Superman, donc ça fera vraiment de, bah, des petites figurines Lego, quoi.
Faut voir s'il y a terme dans les boîtes de Lego de base. Si t'achètes genre juste une boîte de Lego avec Batman, est-ce que tu pourras l'utiliser dans Lego Dimensions ou est-ce qu'il faudra acheter spécifiquement des Lego Dimensions? Si Lego se met à dire non mais tous les Lego que vous pouvez acheter ever, c'est dans Lego Dimensions, là ils tapent vraiment du poing sur la table.
Je pense pas parce que ça, enfin.
Je pense pas non plus.
Ouais, il faudrait que déjà qu'il y ait un truc NFC qui les prenne en compte.
Non mais t'imagines genre. À partir de maintenant, dès la sortie de Lego Dimensions, les prochains sets qu'on crée, ils sont tous compatibles. Là, ça va devenir un truc de fou.
Ça sort que sur Wii U, tu m'as dit ?
Non, ça sort sur PlayStation 3, PS4, Wii U, Xbox 360 et Xbox One. D'ailleurs, au niveau de la date de sortie, ça sort fin septembre. Le pack de base coûte quand même $100.
Ah oui, quand même. J'avais pas entendu ce prix-là, mais si ça fonctionne, ça sent la caisse machine à plein nez quand même.
Oui, carrément.
Mais $100, ça fait cher. Pour des gamins, c'est... ils vont saouler leurs parents pour les avoir, mais quand même $100, je trouve que bah, pour des pauvres Lego, ça fait quand même cher, quoi.
C'est le prix des autres, enfin des concurrents en tout cas, donc bon. Mais c'est vrai que Lego, enfin l'objet est pas très,
Et pas très sexy.
L'objet fait assez cheap par rapport aux figurines de Disney Infinity, par exemple, pour les avoir vues de près, ou pour ne serait-ce qu'un Amiibo. C'est vrai que pour le coup, ces figurines-là sont très qualitatives par rapport à juste un Lego. Donc, faut voir si c'est les Lego Dimensions ont quelque chose de plus sur la sculpture ou machin, ou si c'est genre juste du pur Lego.
Parce que quand même un Lego, c'est quand même assez pourri, quoi. C'est des carrés, quoi. Qui t'assemblent.
Ouais.
Enfin bon.
Par contre, à mon avis, ils ont une force que n'ont pas les autres licences qu'on a évoquées ici, c'est que Lego, c'est quand même assez transgénérationnel, quoi. On pourrait me dire oui Disney, mais enfin Disney c'est même c'est très connoté enfant quoi quand même. Alors que Lego, moi je connais des adultes, c'est des fous sur les Lego quoi.
Et ça plus donc, moi je pense aussi s'ils annoncent on sait jamais tu vois dans la foulée Lego la grande aventure 2, hop, ils mettent ça en même temps, ils mettent le plan marketing avec le film.
Bah, bien sûr.
Et là bon les gamins ils vont y aller, les parents qui ont connu ça aussi enfant. Ils vont dire bon bah j'achète ça pour mon gamin et en même temps je vais y jouer avec lui parce que j'ai connu le truc. Voilà et là ça peut vraiment cartonner Surtout que ça sort sur toutes les plateformes quoi.
D'autant plus que les films Lego on va en bouffer jusqu'en 2020 hein, donc
voilà donc
voilà, je pense que niveau plan marketing on est bien.
Je sens bien venir le truc quoi.
Bon messieurs, nous allons terminer cette semaine d'actualité avec une nouvelle en provenance des États-Unis. Et cette nouvelle, c'est l'Electronic Frontier Foundation qui milite pour que les jeux qui sont abandonnés par les éditeurs, je précise les jeux en ligne, puissent être modifiés. Aux États-Unis, quand un jeu est abandonné, un jeu en ligne, légalement, vous n'avez pas le droit de le modifier pour créer un serveur privé, pour pouvoir y jouer hors ligne aussi. Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, par exemple, imaginons demain les serveurs de Diablo 3 ferment. Vous n'avez pas le droit de créer un serveur privé pour jouer à Diablo 3. Vous n'avez pas le droit de modifier le jeu pour faire en sorte d'y jouer offline. Alors que ceux sur console peuvent le faire. Ouais. Donc, cette fondation milite auprès du gouvernement américain pour faire en sorte que voilà ça change. Et évidemment, vous l'imaginez bien, les éditeurs ne sont pas d'accord et arguent, n'est-ce pas, que oui, mais vous comprenez, ma bonne dame, autoriser ce genre de manipulation, c'est reconnaître que le piratage est légal. Voilà.
Ça n'a rien à voir pour moi.
c'est pas le piratage. Enfin, je précise le terme parce que je suis pas assez précis. C'est même le hacking. L'acte de hacker un jeu rend le hacking légal. Pourquoi j'ai voulu évoquer cette affaire cette semaine? Parce que j'ai un problème fondamental avec les DRM. Typiquement dans ce genre de cas. Où on te dit que tu es dépendant de l'éditeur et on te dit qu'à la fin, au moment où l'éditeur abandonne ton jeu, que ce soit un jeu massivement multijoueur ou même un jeu simplement en ligne, tu peux aller te faire foutre, on ferme les serveurs et basta, quoi. Alors que quand même, à une certaine époque, je rappelle, une époque pas si lointaine, sur quasiment tous les jeux, en tout cas sur les jeux simplement multijoueurs, tu avais la possibilité de créer tes serveurs privés à toi.
Oui.
Ce qui est une possibilité qui, sur les gros jeux en tout cas, est de plus en plus rare. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça devrait être la norme, en fait.
Ouais, carrément. C'est, en tout cas, c'est une vraie cause et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'en occupent. Après, est-ce que le syndicat des éditeurs aux US va pas justement faire pression pour que ça n'existe pas? Le problème, en fait, c'est que je pense qu'ils ont peur que si jamais ça passe pour les jeux qu'ils arrêtent de soutenir, en fait, la suite logique, ça va être bah oui, mais alors pourquoi vous laissez pas les gens faire des serveurs privés de base? Et donc je pense que ça les gêne.
Ah oui, parce que comme ils veulent avoir la main sur ces serveurs là
voilà,
et te faire payer un season pass, une connerie comme ça, voilà, donc forcément voilà. C'est tout de suite moins rentable, quoi.
Voilà, donc à mon avis il y a de ça derrière en réalité, mais parce que évidemment, enfin, pour jouer à pas mal de vieux jeux en ce moment, le fait que, enfin, il y a pas mal de vieux jeux auxquels je joue qui sont aussi multijoueurs et qui avaient un vrai intérêt multijoueur, notamment Star Wars Battlefront. Faut y aller, hein, pour jouer en multijoueur sur ce jeu maintenant.
C'est génial.
Tout ça parce que là-bas, évidemment, il y a plus de matchmaking depuis, je sais pas, au moins 10 ans. Enfin non, peut-être 8 ans. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. D'autant plus maintenant, comme tu le disais, Thierry, que il y a énormément de jeux qui sortent maintenant. Ou c'est des serveurs qui sont gérés par l'éditeur, et l'éditeur peut dire ouais non mais c'est plus rentable, moi j'arrête de soutenir les serveurs. Typiquement, bon, c'est un mauvais exemple parce que Blizzard a cette tendance à soutenir ses jeux pendant sur la durée, mais Diablo 3, typiquement, Blizzard arrête les frais de ses serveurs, et ça arrivera un jour, hein. Bah voilà.
Après, comme tu dis, le cas de Blizzard est très particulier parce que, je veux dire, Diablo 2 est encore supporté, donc voilà.
Oui, mais même chose pour Civilization à l'époque du lancement parié. Hein.
Surtout que ça ne nous coûte pas un sou, en fait. Ça permet aux gens qui ont apprécié le jeu et qui veulent continuer à le faire vivre, bah, de pouvoir se retrouver entre fans de la licence et de continuer à le faire vivre, entre guillemets. Enfin, je comprends pas pourquoi et vraiment ils veulent faire ça. Enfin, si d'après l'argumentation de Mordren, parce que voilà, ils veulent te faire payer des serveurs qui sont privés et qui leur appartiennent et ainsi décider oui. De l'appui du beau temps.
Oui, mais puis il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que je vous rappelle quand même qu'on maintenant la norme c'est de sortir un jeu tous les ans.
Oui.
Et que si tu laisses la possibilité aux gens de jouer aux anciennes versions qui sont pas tellement différentes que ça des nouvelles, c'est un petit peu embêtant. Quand tu veux les refaire passer à la caisse. T'imagines, ma bonne dame, va falloir bosser pour mettre des vraies innovations dans les jeux, quoi, pour pousser les gens à jouer au nouveau. C'est un truc de fou.
Ça me rappelle un petit peu ces histoires des pauvres gars qui avaient continué à faire vivre le Xbox Live premier du nom en jouant à Halo 2 et en débranchant pas leur console pour espérer de faire survivre le truc. Et bon, bah, Microsoft, ils sont arrivés derrière, ils ont dit, allez hop, c'est bon, voilà, vous nous faites chier, vous, les 12 pecnos qui continuent à y jouer. Mais, tu vois, sur console, s'il y aurait eu la possibilité de pouvoir avoir des serveurs qui leur auraient propres, eh ben, ils auraient pas eu à essayer de forcer Microsoft à garder les serveurs ouverts, tu vois, ils auraient fait leur truc. Microsoft, bon, ils s'en foutraient parce que ça leur coûterait pas un rond. Et tout le monde serait content. Un jeu, quand il est sorti, qu'il soit solo, avec une composante multijoueur ou bien que multijoueur, et bah il doit quand même rester quelque chose du patrimoine vidéoludique. Il doit pas disparaître comme ça et puis on l'oublie et puis si tu veux y rejouer, bah c'est pas possible. Enfin ou bien t'auras un boom manquant du jeu. Alors que le jeu au moment de sa sortie, il y avait cet aspect-là qui était très important et finalement bah il laissera rien du tout à la culture, aux souvenirs, si ce n'est que des pauvres vidéos sur internet, des souvenirs dans la tête des gens et puis voilà quoi.
Ah et puis à mon avis il y a un autre problème par rapport à ça, c'est que pour les éditeurs, je le rappelle, vous n'êtes pas propriétaire de vos jeux.
Oui.
Vous êtes détenteur d'une licence. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour eux, une fois que ils ferment le jeu, voilà, c'est la fin de votre contrat de licence, quoi. En gros, vous passez à autre chose. Or, reconnaître le fait que les gens ont droit de modifier le jeu derrière pour y jouer, c'est reconnaître quelque part qu'ils sont propriétaires des jeux. Donc moi ça m'étonne pas plus que ça. Il y a enfin il y a tellement de raisons pour refuser que ça se fasse que voilà, moi je pense qu'ils vont faire une pression de fou pour que ça se fasse pas quoi en tout cas.
Ah c'est moche, mais c'est très gênant notamment pour les MMO. Mmh. Je me rappelle du cas Star Wars Galaxies où justement c'est marrant mais pile au moment où est sorti Star Wars The Old Republic on nous a dit ah désolé on ferme l'assistance respiratoire et t'imagines la communauté de Star Wars Galaxies à qui on a dit ça qui ont vécu des je sais plus combien de temps il était sorti enfin bref c'était genre 6 ans ou un truc comme ça qui jouaient mais c'était un truc de ouf hein les communautés RPG sur Star Wars Galaxies quand on dit ça à des gens comme ça tu te dis mais putain mais j'ai joué à ça pour finalement qu'on me laisse tomber
Ce qui était d'autant plus stupide que le nouveau Star Wars MMO n'avait rien à voir avec Star Wars Galaxies en termes de gameplay.
Exactement.
Et que t'auras beau fermer le jeu, si tu ne proposes pas la même expérience, parce que c'est, au final, certes, il y avait l'univers Star Wars, mais tu avais aussi l'expérience que proposait Star Wars Galaxies, c'est pas sur ton jeu qu'ils vont aller sur un jeu qui propose la même expérience. Voilà.
Comme ça, malheureusement pour eux, bah, ils ont voulu faire ça et puis ils sont plantés aussi avec le nouveau.
Et puis, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'en termes de créativité dans les jeux vidéo, je vais prendre justement l'exemple de Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies, il faut savoir que pourquoi le jeu ça commence à se planter aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de modifications assez profondes dans le gameplay, qui ont, modifié le concept du jeu, quoi. Il était beaucoup moins RP que ce qu'il était à la base, etc. Et on aurait pu imaginer, par exemple, si on aurait laissé les gens modifier le jeu, que une fois le jeu abandonné, bah il y a une communauté qui se crée et voilà. Qui remette le jeu tel qu'il avait été pensé comme au départ, c'est-à-dire un MMO ultra hardcore où c'est pas Jedi Land, très axé RP, etc. Ou par exemple, je prends un MMO plus récent que j'attendais beaucoup, que j'attends plus du tout maintenant, c'est Ark Edge. Ark Edge, c'est un jeu à la base qui était censé être très orienté sandbox, etc. Puis ils en ont fait un espèce de simili theme park parce qu'ils se sont rendus compte que le jeu généra pas assez de revenus, etc. Si un jour il est abandonné, tu vois, moi je trouve que ce serait intéressant qu'il y ait une communauté qui se mette dessus, qui remette le jeu tel qu'il avait été pensé à la base, quoi. Et ça pourrait faire émerger des concepts, etc., où t'as des différents serveurs, où il y a des règles différentes, etc., où le jeu est complètement repensé, peut-être. Et franchement, ça serait cool, quoi.
À savoir que Star Wars Galaxies, il y a toujours des serveurs qui sont up à l'heure où on parle, hein, donc...
Enfin, c'est des serveurs privés, ou...
Voilà, c'est ça, c'est des serveurs privés.
Oui, sauf que c'est... On est d'accord, mais... Après, c'est faisable, hein. Des serveurs privés, il y en a plein. Mais je veux dire, c'est pas légal. Voilà.
Non.
Après, évidemment, vous savez, l'égalité sur Internet, c'est souvent...
Ça se fait au doigt levé, généralement.
Voilà. Mais ça serait bien que ce soit légalisé officiellement, parce que là, pour le coup, tu vois, les gens pourraient aller sur les forums, faire en sorte que de regrouper, de mobiliser des communautés, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile là, parce que si un serveur grossit trop après, tu vois, t'as l'éditeur qui lui tombe dessus derrière, et puis...
Ouais. Mais pour c'est revenir à Star Wars Galaxy, pour y jouer apparemment, c'est quand même assez compliqué. Parce que j'avais vu un live de Gamekult là-dessus, et pour lancer le jeu et tout ça, il y a déjà le jeu il freeze ou il se lance pas, donc il faut avoir le bon exécutable et tout, et il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir te lancer sur un serveur privé. Donc voilà, c'est pour ça que le truc, je pense pas qu'il a une ampleur phénoménale.
Voilà. Bon. Messieurs, rien à ajouter. Pouvons-nous refermer le dossier pour cette semaine?
Oui. Yes.
Donc, messieurs, dames, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pas de jeu du moment cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Pillars of Eternity, au passage, je spoil le test, très très bon jeu. très bon jeu.
Oh, surprise.
Ouais, là, je suis un peu à fond dessus en ce moment, c'est bon. Allez, bon, messieurs, dames, rendez-vous la semaine prochaine. Bisous à tous.
Bye. Allez. Ciao.